prophétie de notre Seigneur, et nous avons lu quelques textes, moi, qui annonçaient la vie et la passion du Christ. Et donc, cet ouvrage est intéressant. On voit bien par le chemin de croix, les 14 stations du chemin de croix, mais commenté avec les prophètes. C'est très, très, très beau. Bon, tout un tas de choses. Là-dessus, je crois que la littérature religieuse, pieuse, ne manque pas. Hein. Donc, ce que nous ferons, nous continuerons à suivre l'ordre de la Sainte Écriture, ce que nous disent les évangiles, moi, avec quelques explications, puis à vous, après, de compléter. Hein. C'est le moment où jamais, pendant ce temps de la Passion, justement, d'essayer d'approfondir un petit peu ce grand mystère de notre rédemption, de notre salut. Hein. Voici, par exemple, ici, une réflexion de saint Thomas d'Aquin, et toujours, hein, des très belles paroles très denses et parfois un petit peu paradoxales. Voici ce qu'il disait, vous avez ça dans son commentaire du symbole des apôtres, c'est un des sermons qu'il faisait sur la fin de sa vie à Naples, qui ont été donc traduits dans cette édition sur le credo. Et il vous dit, par exemple, donc, dans ce sermon, quiconque veut vivre avec perfection n'a rien d'autre à faire que de mépriser ou de désirer ce que le Christ a méprisé ou désiré sur la croix. Voilà. Vous voulez savoir un petit peu comment vivre la perfection, atteindre vraiment la perfection, qu'est-ce qu'il faut faire pour être parfait? Eh bien, regardez ce que le Christ a méprisé et désiré sur la croix. Et agissez de même. Bon. Car, continue-t-il, aucun exemple de vertu ne manque à la croix. Si tu cherches un exemple de charité, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et le Christ l'a fait sur la croix. Si tu cherches un exemple de patience, on n'en rencontre pas de plus parfaite que sur la croix. Si tu cherches un exemple d'humilité, regarde le crucifié. Un exemple d'obéissance, mets-toi à la suite de celui qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Un exemple du mépris des choses terrestres, marche derrière celui qui est le roi des rois, et le Seigneur des Seigneurs. En lui sont les trésors de la sagesse, et pourtant, il a été dépouillé de ses vêtements, tourné en dérision, couvert de crachats, roué de boue, couronné d'épines, abreuvé de fiel et de vinaigre, et soumis à la mort. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y avait comme enseignement, comme invitation, justement, à la perfection. Regardons comment Jésus-Christ a vécu et comment il est mort. Il y a un autre texte de saint Thomas, que nous l'avions déjà lu il y a quelque temps, un an ou deux, je ne sais plus très bien, qui raccourcit de saint Thomas d'Aquin. Ça paraît tout simple, des choses comme ça, mais quand on s'arrête un peu pour peser chacun des mots, c'est très éclairant. En tout ce que le Christ a fait ou souffert, était réuni à la fois la faiblesse humaine et la puissance divine. Mystère du Christ, un homme et Dieu, et donc la faiblesse dans son humanité, la puissance dans sa divinité, toujours, dans tout ce que fait notre Seigneur, il faut considérer les deux choses, pour ne pas être scandalisé par la faiblesse, et ne pas oublier qu'il y a derrière cette faiblesse humaine la puissance divine qui se manifeste, qui se révèle d'une certaine façon, pour la découvrir, voir un peu quel est ce mystère justement qui se cache. À sa naissance, il est enveloppé de l'ange et déposé dans une crèche, mais il est loué par les anges et adoré par les mages, conduit par une étoile. Ouais, la faiblesse, voilà, un petit enfant, non de l'ange, et puis pourtant, les anges qui viennent l'adorer, qui chantent sa naissance, les mages qui viennent l'adorer, et ils sont conduits par une étoile, puissance. Il est tenté par le démon, mais servi par les anges. Il vit pauvre et mendiant, mais il ressuscite les morts et rend la vie aux aveugles. Et ce continuel paradoxe dans la vie du Christ. Il meurt cloué à la croix et est compté au nombre des voleurs, mais à sa mort, le soleil s'obscurcit, la terre tremble, les pierres se brisent, les tombeaux s'ouvrent et les corps des morts ressuscitent. Et ce prodige, ce miracle, véritable miracle, qui se produit au moment de la mort du Christ, alors que c'est l'anéantissement, voilà, c'est la défaite, c'est l'échec, et pourtant, toute une série de miracles qui se réalisent à ce moment-là. Et donc, conclut saint Thomas d'Aquin, Après avoir vu sortir de tels débuts un si grand résultat, à savoir la conversion du monde presque tout entier au Christ. Donc si, après tout cela, on demandait encore d'autres signes pour croire, on serait plus dur que la pierre, car à sa mort, les rochers eux-mêmes se sont fendus. À la mort du Christ, les rochers se sont fendus. Et puis nous-mêmes, on a toujours la tête aussi dure. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus de ça? Bon, on va essayer de fendre un petit peu la tête. Quand même. Comprendre un petit peu, avoir la tête un peu moins dure que les rochers. Comprendre un petit peu, c'est grand mystère d'amour. Alors aussi, c'est un autre passage de saint Thomas d'Aquin, dans lequel il essaie de nous faire comprendre. Bien sûr, c'est très schématique tout cela, mais bon, à chacun de développer, hein, à quel point notre Seigneur, justement, a payé la dette, à quel point il a satisfait, jusqu'où il a voulu aller. Pour satisfaire, justement, pour nous, pour payer la dette à notre place. Ouais, celui-là satisfait vraiment pour une offense qui offre à l'offensé un objet d'amour égal ou supérieur à cet objet de peine qu'est l'offense. Ouais, donc celui-là qui vraiment répare l'offense, mais c'est celui qui offre une compensation au moins égale, sinon supérieure, hein, à l'offense. Or, le Christ, en souffrant par charité et par obéissance, a offert à Dieu quelque chose de plus grand que ne l'exigeait la compensation de toutes les offenses du genre humain. Et pourtant, additionner, accumuler toutes les offenses de tous les péchés des hommes, depuis le début jusqu'à la fin du monde, hein, vous voyez un petit peu ce que ça peut faire, comme offense à l'amour de Dieu, c'est effrayant. Eh bien, notre Seigneur, en souffrant par charité et par obéissance, a offert à Dieu quelque chose de plus grand, que ne l'exigeait même la compensation de toutes ses offenses. Il était au-delà de la stricte justice. Il a, comme dit, je crois, le cardinal Jourdet dans une de ses retraites, il a surcompensé. Il était même au-delà de ce qui était strictement nécessaire. Et c'est vrai qu'à des moments, quand on réalise un peu, on dit, non, on en vient bien, mais enfin, pourquoi vous êtes allé aussi loin, quoi. Pff, à la limite, vous en avez trop fait. On ne mérite pas que vous ayez fait tout ça. Ça ne s'explique pas, ça. C'est ça l'amour. Quand on aime quelqu'un, on ne mesure pas. On donne tout ce qu'on peut donner, il faut se lever. Et c'est comme ça qu'il nous a aidés. Il n'a pas mesuré. Il aurait pu faire moins, mais non. Aïe, si on comprenait tout ça. Donc quelque chose de plus grand que de l'exiger la compensation. Premièrement, à cause de la grandeur de la charité en vertu de laquelle il souffrait. Bien sûr, c'est cette vertu qui anime toute la vie, toute la passion du Christ, hein, cette charité, cette immensité de l'amour qu'il a pour son Père et qu'il a pour nous également. Deuxièmement, à cause de la dignité de la vie qu'il donnait comme satisfaction. Cette vie qu'il donne sur la croix, ce n'est pas une vie simplement humaine, c'est la vie d'un homme Dieu. Sans doute, ce n'est pas la vie divine, cela, il ne peut pas la perdre, il ne peut pas la donner. Cela. Mais c'est sa vie humaine, sans doute, mais cette vie humaine qui est celle de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut donner de plus? Il n'y a pas de vie qui ait plus de valeur que celle-ci. Donc, à cause de la dignité de la vie qu'il donnait comme satisfaction. Et troisièmement, nous l'avons considéré un petit peu déjà, à cause du nombre de ses souffrances et de l'acuité de sa douleur, ainsi qu'on l'a dit. Toutes ces souffrances que nous avons essayé de parcourir rapidement et que nous allons continuer à considérer. Et l'acuité de sa douleur. Non seulement le nombre des souffrances, l'accumulation des souffrances, mais l'acuité. Rappelons-nous toujours, la sensibilité de notre Seigneur, une nature humaine parfaite, sans tâche, sans défaut, sans cette carapace un petit peu de brute là que nous avons tous, là, avec nos péchés, on s'est un petit peu durci dans tout cela, ce qui fait que ça nous rend peut-être moins sensible au péché, moins sensible à la souffrance. Ouais. Alors que lui, au contraire, une sensibilité qui est la plus fine qui soit. Et à quel degré il a ressenti toutes ces souffrances. Et voilà pourquoi la passion du Christ a été une satisfaction non seulement suffisante, mais surabondante pour les péchés du genre humain, selon ce que dit saint Jean dans son épître, premier épître de saint Jean, chapitre 2, verset 2. Lui-même est propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Tous les péchés du monde. Bien sûr. Il est propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est sûr, ça, bon, c'est une chose que, qui n'est pas fausse, hein, que Jésus-Christ a racheté tous les hommes, tous, sans distinction. Il a fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il devait pour le salut de tous les hommes. Bon, cela ne veut pas dire, malheureusement, que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est autre chose. Parce que malheureusement, tous les hommes n'acceptent pas, eh bien, de se couler un petit peu dans le sang rédempteur. Il y en a qui le refusent, qui ne veulent pas dépendre du Christ. Il y en a qui veulent se sauver tout seuls, qui veulent au moins faire leur bonheur tout seul. Bon, alors, il est évident que pour cela, Jésus-Christ, pourtant, est mort pour eux. Il a donné son sang pour eux, mais ils n'en veulent pas. Alors, enfin, mais tant pis pour eux. Et pourtant, il ne dépend que d'eux de profiter de la rédemption, mais ils n'en veulent pas. C'est le même péché que celui des anges. Péché des anges qui n'ont pas voulu. Bon, c'est le plus compliqué, mais enfin, en gros, c'est la même chose, qui n'ont pas voulu dépendre de Dieu. Et les anges pouvaient accéder à la béatitude. Bon, je pense aux démons, là, bien sûr, je pense aux autres, ça c'est clair. Hein. Mais tous les anges pouvaient accéder à la béatitude, il fallait simplement eh bien, qu'ils acceptent d'être élevés à l'ordre surnaturel par Dieu. Il y en a certains qui ont dit ok, enfin qui ont dit oui, bien sûr, ça va bien. Excusez-moi. Voilà, qui ont accepté justement de dépendre de la grâce, d'être élevés à l'ordre surnaturel par Dieu, et d'autres qui ont dit non, non. D'autres ont dit, non, nous on va être heureux, mais par nos seules forces naturelles. Voilà, avec la perfection naturelle qui est la nôtre, et bien avec ça, nous allons réaliser notre bonheur. Donc, refus de l'ordre surnaturel. Terminé, ça fait. J'ai la damnation. Et c'est malheureusement combien d'hommes aujourd'hui vivent dans le même péché. Dieu ne veut qu'une chose, c'est les élever à l'ordre de la grâce, à l'ordre de la rédemption, à l'ordre du salut, ils ne veulent pas. Ils veulent se rendre, être eux-mêmes les auteurs de leur perfection, de leur salut, de leur bonheur, de leur sainteté, tout ce qu'on veut, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est notre Seigneur qui l'a dit. Voilà, donc, eh bien, essayons un peu donc, de. Après ce préliminaire, un petit peu long, bon, de continuer un petit peu l'examen de la passion du Christ, hein, donc nous avions. Laisser bien notre Seigneur entre les mains des Juifs, hein, on se pilate, donc, malgré tous ses efforts, et on sent bien quand même qu'il aurait voulu le sauver, mais c'est un lâche. Il voyait bien, il avait la claire vision de l'innocence du Christ, il voyait bien qu'on lui faisait un mauvais procès, qu'en fait on le condamnait pour autre chose que ce qu'on lui reprochait, hein, c'était d'autres motifs, et il a fait tout ce qu'il a pu, etc., même jusqu'à faire flageller notre Seigneur, alors qu'il était innocent et qu'il le savait, et puis, ma foi, mais voilà, malgré tout, il a manqué de force, manqué de courage, et il a cédé donc devant les exigences du Sanhédrin, et qui porte donc, encore on en dit, c'est bien l'entière responsabilité de la condamnation et de la mort du Christ, même si bon, il a été faible, et donc à donner l'autorisation, c'est clair, hein, ce sont ces soldats qui vont conduire notre Seigneur au supplice, c'est vrai, il ne s'agit pas de l'innocenté complètement, mais quel est le plus coupable des deux? Notre Seigneur lui-même lui a dit, celui qui m'a livré à toi a commis un bien plus grand péché que toi. Et donc voici notre Seigneur qui est livré à la crucifixion. On lui remet ses vêtements. Après, on lui retire le vêtement de guérison qu'on lui avait, dont on l'avait affublé pour le présenter au peuple. Hein. Après s'être moqué de lui, ils l'ôtèrent la peau et lui remirent ses vêtements. Puis, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Donc, voici notre Seigneur qui va partir pour son chemin de croix, qui, bon, il est difficile hein, de savoir exactement. Bon, je ne veux surtout scandaliser personne, attention, hein, mais de savoir exactement quel est le tracé, quel est le parcours hein, qu'a suivi notre Seigneur dans Jérusalem pour son chemin de croix, parce que Jérusalem a été détruite en 70. Bon, les armées d'Idus sont. Et bon, la ville a été détruite, alors après, sans doute, ça a été reconstruit. Alors, il y a beaucoup de traditions qui sont tout à fait respectables, mais enfin, il est difficile parfois de savoir exactement à quel endroit, à quel moment s'est passé tel événement que me raconte le chemin de croix traditionnel, car il est clair, hein, si vous lisez les Saintes Écritures, l'Évangile, Tout ce que nous avons dans le chemin de croix n'est pas dans les évangiles. Il y a des traditions. Ça ne veut pas dire que ces traditions soient fausses. Il faut se garder de ce sorte d'esprit rationaliste, soi-disant scientifique, etc. Vous avez su peut-être, je crois, il y a quelques années, il y a un an ou deux, je crois, c'est à Rome, au Vatican, malheureusement, le pape Jean-Paul II a fait un chemin de croix biblique. Il est évident que si vous faites un chemin de croix biblique, eh bien, vous évacuez donc les chutes de notre Seigneur, vous évacuez Sainte-Véronique, vous évacuez la rencontre avec Notre-Dame. Bon, mais est-ce qu'il reste? Oui, il reste la Bible. Bon, et c'est vrai que la Bible est très, très discrète. On sent bien, d'ailleurs, que les apôtres n'ont pas tellement envie de s'étendre un peu là-dessus. Ils disent vraiment l'essentiel, les grands événements. Et puis le reste, si vous voulez, ils laissent ça un peu à notre contemplation, à notre compréhension personnelle. Hein. Mais il est vrai que ces événements, ces trois chutes de notre Seigneur, la rencontre avec Sainte Véronique, la rencontre avec Notre-Dame, ne sont pas dans les Saintes Écritures. Bon, ça ne veut pas dire que ce soit faux. Bon. Mais il est clair, c'est clair. Les Saintes Écritures ne nous rapportent que deux événements dans le chemin de croix. Bon, en plus de la crucifixion, bien sûr, du dépouillement et de la crucifixion. C'est Simon de Cyrène, l'épisode de Simon, le Cyrénéen, et puis l'épisode des filles de Jérusalem. Voilà, c'est tout. Mais il est certain, en tout cas, ça dirait que c'est même d'une logique, si vous voulez, c'est clair. Mais vu l'état dans lequel était notre Seigneur après cette nuit, hein, depuis, vous vous souvenez un petit peu de tout ce qu'il a vécu, depuis la Seine, le jardin des Oliviers, l'agonie, le troisième agonie au jardin des Oliviers, ensuite, bon, hein, traîné à travers le torrent et ses rondes, on est traîné chez Hérode, Caïphe, Pilate, etc. La flagellation, la guérison, les mauvais traitements infligés par les soldats, etc. Bon, on est un petit peu dans quel état d'épuisement déjà il se trouvait. Le chemin de croix commence, semble-t-il, hein, la condamnation. Ponce Pilate livre notre Seigneur aux Juifs, il est, semble-t-il, vers la fin de la matinée, vers 11h, midi peut-être à peu près. Et tout cela a commencé dans la nuit. Alors, toutes ces heures de souffrance, dans quel état pouvait être notre Seigneur alors qu'il soit tombé, et même à la limite, il est peut-être tombé plus de trois fois. C'est clair. Hein. Que sa mère ait été présente, mais c'est évident. Même si l'évangile ne le dit pas, mais enfin, imaginez un peu comment une mère, comment une maman peut abandonner son enfant alors qu'elle voilà, elle sait très bien ce qui se passe. Il est certain qu'elle devait être quelque part et essayer de le voir, de le rencontrer. C'est évident tout cela. Enfin, donc, gardons-nous de cet esprit rationaliste. Bon, maintenant, ne faisons pas dire non plus aux Saintes Écritures plus qu'elles ne disent. Hein, ça, voilà. C'est une mesure à trouver qui est très, très facile. Mais, encore une fois, ne rejetons pas toutes ces traditions. Sous prétexte que ça n'est pas prouvé scientifiquement, c'est pas pour ça que c'est pas vrai. Il y a quelque chose comme ça auxquelles nous croyons et dont nous n'avons pas la preuve scientifique. Des choses dont nous vivons même et qui ne nous ont jamais été prouvées scientifiquement. Il faut respirer pour vivre. Et vous le faites sans demander une démonstration scientifique. Hein. J'espère, sinon, mais, vous allez attendre longtemps. Hein. Je ne comprends pas. Voilà. Bon, enfin voilà donc notre Seigneur qui est chargé de sa croix. Alors cette croix était vraisemblablement la croix sur laquelle notre Seigneur va être fixé, vraisemblablement une croix comme celle dont nous avons la représentation classique, hein, ces deux barres en croix, effectivement, dont l'une est plus longue que l'autre, ouais. Mais d'après les habitudes et les usages des Romains et des Juifs, il semble bien que cette croix était effectivement composée de deux parties. D'abord le pieu vertical, et puis cette barre horizontale, le pieu vertical, qu'on appelait le stipes, et qui était planté en terre. Et bien souvent, ce pieu vertical restait planté en terre et servait pour hein, plusieurs, etc. Bon, chacun son tour, si on peut dire, mais il passait. Vous voyez donc le pieu qui était planté en terre. Et celui qui était condamné à la croix, bien souvent, était chargé simplement, non pas de la croix entière, telle qu'on la voit, et à la limite, ça se comprend un peu, parce que ça devait faire un bon poids, hein, pour porter, traîner cela. Et dans l'état de faiblesse où étaient bien souvent les crucifiés, les condamnés à la croix, et bien souvent on ne les chargeait que du bois horizontal, donc la barre transversale qui faisait déjà son bon poids et qui suffisait bien certainement à les faire souffrir et à les faire tomber. Ce bois horizontal, donc appelé patibulum. Et il semble même, vous voyez, ça c'est quelque chose qui est plus, dont on n'a pratiquement pas la représentation sur nos croix modernes, mais dont on trouve une représentation sur les premières images de la crucifixion, de la croix. Non pas une apparition sur celui-ci. Souvent nous avons des crucifix où l'on représente sous les pieds de notre Seigneur une sorte de support, voyez, sur lequel donc il reposait ses pieds, et qui en fait n'existait pas. Les crucifix n'étaient pas crucifiés ainsi, mais il y avait au contraire, enfin, un peu plus haut justement, une sorte de proéminence qu'on appelait un sédilé, sur lequel eh bien, venait s'appuyer comme un califourchon le corps des crucifiés, une sorte de siège subordonné. Quelque chose un petit peu, certains auteurs tertulliens comparent cela à une corne de rhinocéros, une sorte de chose qui dépassait un peu pour que le crucifié puisse faire reposer un peu son corps. Bon, étant entendu que si quelqu'un qui se fait crucifier les clous dans les mains et dans les pieds, ben, ça ne peut pas tenir très très longtemps. Ouais. Bon, alors ça c'est la définition de ce tout peu. Le docteur Barbet, vous connaissez peut-être les ouvrages, le docteur Barbet, la passion selon le chirurgien, n'a peut-être pas tout à fait les mêmes théories. Bon, de toute façon, je dirais, peu importe. Hein. Mais d'après les recherches, quand même, ce que l'on sait, les traces que l'on a de ce qu'il faisait à l'époque, il semble que la plupart du temps, les crucifix étaient ainsi assis, d'une certaine façon, où leur corps reposait un petit peu sur une sorte de corne qui dépassait de la croix. Voyez. Et leurs mains étaient clouées, bel et bien, quand même, leurs pieds aussi, mais le corps ne reposait pas entièrement sur les pieds et sur les mains. Hein. Donc, notre Seigneur, eh bien, semble-t-il, est chargé de ce bois horizontal, ce patibulum, avec lequel, donc, il va se mettre en route sur le chemin de la croix. Hein. Si vous vous rappelez le schéma que nous avions fait la fois précédente, le palais de Ponce Pilate, semble-t-il, n'était pas très, très éloigné du lieu du lieu de la crucifixion, le calvaire, le Golgotha, en ligne droite, eh bien, il faut compter à peu près 200 à 300 mètres, ouais. Mais il est tout à fait probable que, comme cela se faisait souvent quand on avait un crucifié, enfin, un condamné de marque, eh bien, on aimait à le promener dans la ville. Les foules étaient nombreuses à cette époque-là, dans Jérusalem, mais les Juifs, sans doute, ont dû prendre plaisir à exhiber notre Seigneur, leur victime, exhiber un peu leur triomphe, finalement, devant tout Jérusalem, en promenant comme ça notre Seigneur épuisé, tombant, ensanglanté dans les rues de Jérusalem. Bon, combien de temps a duré le chemin de croix, ce parcours, sans doute une heure, à peu près, on comprend tout à fait, que pendant cette heure, eh bien, notre Seigneur est connu plus d'une, même peut-être plus de trois chutes. C'était la coutume également que les condamnés portent avec eux le titre de leur condamnation, donc cette tablette que nous retrouverons à l'arrivée, qui sera fixée sur le sommet de la croix, INRI, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc c'était cette tablette qui portait le motif de la condamnation et que portaient les condamnés maintenant sur le chemin du calvaire, sur le chemin de la crucifixion, pour que les foules qui les voyaient bien sachent un peu qui ils étaient et pourquoi ils étaient condamnés. Et sans doute d'ailleurs à ce moment-là, cet épisode qui nous sera raconté plus tard sur la croix a dû commencer à se réaliser un petit peu. Les Juifs, tout contents, si on veut dire, triomphants déjà de leur victoire et première déconvenue un petit peu, voici que, eh bien, Ponce Pilate a fait graver sur cette tablette un titre qui ne leur convient pas du tout. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, non, il n'est pas notre roi. Il s'est dit notre roi, mais il n'est pas notre roi. Et Ponce Pilate, comme tous les lâches, a tout d'un coup un sursaut de courage. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Rendons-lui quand même ce qui lui appartient, rendons à César ce qui est à César. Bon, il a quand même, pour une fois au moins, il n'a pas cédé aux volontés des Juifs, mais enfin, c'était quand même un peu tardif. Mais enfin, quand même, grâce à lui, grâce à cet acte de courage tardif, eh bien, tous les juifs qui vont voir ensuite notre Seigneur sur la croix sauront qui il est véritablement. Hein. Jésus de Nazareth, roi des juifs. Pilate, donc, malgré lui, aura quand même proclamé la vérité. Il aura permis à cette vérité bien d'être vue, d'être connue de tous ceux qui verront notre Seigneur sur la croix. Et voici donc le cortège qui se met en route. Donc, de quoi est formé ce cortège? Bien sûr, si on peut dire, la célébrité. Le principal condamné, c'est notre Seigneur, mais il n'était pas seul. Hein. Il y avait avec lui deux autres condamnés. On trouve quelque part, voilà, si c'est dans Saint-Luc. On conduisait aussi avec lui deux autres hommes qui étaient des malfaiteurs pour les mettre à mort. Donc, il n'était pas seul. Donc, voici ces trois condamnés, notre Seigneur et ces deux malfaiteurs que nous retrouvons au calvaire, et bien, qui le suivent également. Et bien sûr, tous ces trois condamnés sont suivis par toute une foule de curieux, une foule d'ennemis. Bien sûr, les principaux des Juifs étaient là, certainement, qui surveillaient, qui suivaient et qui, sans doute, excitaient un peu la foule. Et qui ne voulaient surtout pas lâcher leur condamné, lâcher leur proie, tant qu'elle n'aurait pas rendu là, mais ils ne l'ont pas lâché. Ils vont le suivre tout au long de son trajet, tout au long de son agonie, sur la croix, ils resteront là au pied de la croix pour l'insulter, continuer à se moquer de lui, et ne l'abandonneront, ne le lâcheront. Si on peut dire que quand ils auront vu, eh bien, qu'il a rendu l'âme. Et donc, c'est toute une foule, sans doute, de gens qui le suivent et qui se moquent de lui. Bon, bien sûr, non seulement les Juifs, les soldats, qui n'étaient pas des enfants de cœur, hein, nous l'avons déjà dit, et qui est sans doute lui taper dessus pour le faire avancer quand il faiblissait un peu. Et voici donc notre Seigneur qui se met en route. Alors les événements que les Saintes Écritures nous rapportent de ce chemin de croix, bien le premier, c'est ce pauvre Simon, qui sans doute n'était pas un disciple de Jésus-Christ, Simon de Cyrène, donc c'était la région, la ville dont il était natif, dont il venait, et qui, voilà, mais qui revenait des champs, et puis qui croise le cortège, et puis qui ne s'est pas porté volontaire. Hein. Simon de Cyrène, bon, on le présente souvent, c'est bien sûr, comme justement, l'âme charitable, généreuse, qui vient au secours de notre Seigneur, ce que nous devons être, ce que nous devons faire, bien sûr, c'est bien, mais lui, ce n'est pas ce qu'il a fait pour Simon. Il rentrait des champs, il s'est arrêté, il a vu passer le cortège, et puis, bon, sans doute, il devait être un petit peu costaud, paysan, et voici qu'il est requis par les soldats. Alors, il n'était pas du tout volontaire. Bon, ma foi, qu'est-ce que vous voulez faire? Quand on est requis, on y va. Et puis voilà. Et voilà, donc il prend la croix de notre Seigneur. Hein. Là aussi, selon ce que nous disent les Écritures, comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix, la lui faisant porter derrière lui. Donc Simon de Cyrène, Simon a pris la croix de Jésus-Christ. Il ne semble pas que le Christ ait porté la croix avec Simon, qu'il ait porté à deux. Oui. Surtout si nous imaginons, encore une fois, si nous admettons que le Christ ne portait que la barre transversale, Simon de Cyrène, en pleine forme, en pleine santé, pouvait la porter sans trop de difficultés, et donc pouvait permettre à notre Seigneur, pendant un certain temps au moins, eh bien, de marcher seul. Oui. D'être un petit peu soulagé. Et donc, d'après l'évangile, il semble bien, oui, ils le chargèrent de la croix, là lui faisant porter derrière Jésus. Donc, voyant Jésus, donc, continuer à marcher sans sa croix, et derrière lui, eh bien, Simon qui porte la croix à sa place. Il ne semble pas qu'il l'ait portée à deux. Voici donc le cortège qui continue sa montée. Vers le calvaire, on va sortir de la ville. La coutume, c'était justement d'exhiber les crucifiés aux portes des villes. Non pas dans la ville, on ne crucifiait pas les gens dans la ville, bien sûr, ça aurait été souillé un petit peu l'enceinte sacrée de la ville. Ouais. Donc on les crucifiait à l'extérieur des murs de la ville, mais pas très loin, pas trop loin, parce qu'il fallait quand même que ça serve un petit peu de spectacle, d'exemple. Et le calvaire, effectivement, se trouve à la sortie nord-ouest de la ville. Ouais. Et tous ceux qui rentraient, qui sortaient, pouvaient voir le lieu de la crucifixion et ceux qui étaient crucifiés. Donc voici cette première aide que reçoit notre Seigneur, c'est Simon qui apporte cette aide malgré lui. Mais il semble bien quand même que cette aide qu'il a apportée à notre Seigneur, malgré lui, eh bien, ait été source de grâce, peut-être pour lui, c'est tout à fait possible, mais en tout cas pour sa famille, puisque saint Marc nous précise que ce Simon était le père d'Alexandre et Rufus. Alexandre et Rufus, qui seront sans doute des disciples de notre Seigneur. Et donc peut-être Simon de Cyrène, par cette aide qu'il a apportée à notre Seigneur, eh bien, a obtenu des grâces, peut-être pour lui quand même, on peut l'espérer, mais également pour ses enfants, ses petits-enfants, ses descendants, qui ensuite eh bien, se sont trouvés au nombre des disciples de notre Seigneur. Hein. Saint Paul en parle dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16, verset 13, par exemple, de Rufus. Hein. Donc c'était des disciples qui étaient bien connus des Romains. Vous voyez, quand Saint Paul en parle aux Romains, ben, c'est comme quelqu'un qui est connu de Rufus, hein, qui était donc le fils de Simon. Mais Simon ne sera pas le seul à aider notre Seigneur, il l'a aidé malgré lui. Il y a également ces saintes femmes, ces femmes de Jérusalem. Oui, qui étaient ces femmes de Jérusalem? Nous ne savons pas trop, ce ne sont pas celles que nous appelons les saintes femmes, hein, celles que nous retrouverons tout à l'heure au Calvaire. Oui. Mais il semble bien qu'à Jérusalem se soit constituée une association de femmes, de haut rang même, qui s'était donnée un peu comme apostolat, si on peut dire, oui. Et bien d'assister les condamnés. C'était une sorte d'acte de charité, de bienveillance, d'humanité au moins, des femmes de la bonne société de Jérusalem qui s'étaient unies pour assister les condamnés, c'était les condamnés à mort, leur apporter quelques soulagements s'ils n'avaient pas de famille pour les entourer, les encourager. Et bien, c'est elles qui venaient au secours de ces pauvres condamnés. Et sans doute, et bien, est-ce un groupe de ces femmes qui suivaient notre Seigneur et qui se lamentaient sur ses souffrances, qui compatissaient donc à ses souffrances, hein, ce qu'on appelle donc, l'Évangile appelle les filles de Jérusalem. C'est ainsi que Jésus-Christ va les appeler filles de Jérusalem. Hein. Et ce sont elles d'ailleurs aussi, même que nous, peut-être, enfin, du moins nous les retrouverons tout à l'heure, comme au Calvaire, ce sont ces femmes de la bonne société de Jérusalem qui, par exemple, confectionnaient les liquides, les boissons que l'on donnait aux condamnés à mort. Vous voyez, pour quelques forces. Et également, dans ces boissons, semble-t-il, était mêlé un petit peu d'anesthésie. Oui, donc, un mélange de fortifiants, également d'anesthésie pour insensibiliser un petit peu les condamnés au milieu de toutes leurs souffrances. Oui. Et c'est elles, sans doute, tout à l'heure, qui lui apporteront un peu de ce vin mêlé de myrrhe, hein, que l'on proposera à notre Seigneur, mais qu'il refusera. Oui. Donc, voici ces filles de Jérusalem qui suivent notre Seigneur et qui pleurent, donc qui se lamentent, qui compatissent. Et notre Seigneur, donc libéré momentanément, au moins par Simon de sa croix, eh bien peut se retourner vers elle à ce moment-là et leur adresser ces paroles que nous connaissons bien. Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voilà toute la charité du Christ. Alors qu'il est lui-même anéanti, brisé, quasiment agonisant déjà, et bien il demande à cet homme de ne pas pleurer sur lui. Parce que sa souffrance à lui, on peut dire, elle n'aura qu'un temps. Elle n'aura qu'un temps et elle va le conduire à la gloire, elle va le conduire à la victoire, elle est nécessaire même à la victoire. Alors qu'elles, ces femmes, et bien les souffrances qu'elles auront à connaître dans 40 ans, ouais, et bien nous ne savons pas où est-ce qu'elles les conduiront. Hein. Pleurez sur vous et pleurez sur vos enfants, car voici que des jours viennent où l'on dira heureuses les stériles et les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Sans doute une évocation de ce drame que vivra Jérusalem dans 40 années à peu près, au moment du siège et de la prise de Jérusalem par Titus, par les armées romaines. Hein. Mais voilà, donc notre Seigneur leur dit, bon, ça n'est pas moi le plus malheureux finalement. Sans doute je souffre, mais vous aurez à connaître d'autres malheurs et qui, malheureusement peut-être, ne vous conduiront pas au même endroit que moi. Alors on commencera à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois sec? Si moi, le saint des saints, si moi, le fils de Dieu, me traite comme ça, comment est-ce que vous, pécheresse, comment est-ce qu'on va vous traiter? Voilà, et ensuite, nous enseignons donc le chemin de croix qui se poursuit. Alors bon, je ne vous parle pas des autres épiteurs que vous connaissez, non pas que je refuse encore. Ce que je ne dis pas, mais bon, suivant simplement l'Évangile. Hein. Voici donc notre Seigneur qui est tout le cortège, notre Seigneur avec les deux autres bandits, brigands, qui arrive au calvaire, au Golgotha, à ce moment-là, bien que fait-on, bien sûr, on pose la croix à terre et les trois condamnés sont dépouillés de leurs vêtements. Les Romains, quant à eux, étaient sans aucun ménagement sous ce rapport-là, et n'avaient aucune crainte, aucune pudeur à crucifier nu, totalement nu. Les Juifs, quant à eux, semblent avoir eu un peu plus de pudeur, donc on peut espérer quand même qu'ils aient épargné à notre Seigneur cet outrage supplémentaire, mais ça, nous n'en savons rien. En tout cas, l'Évangile nous dit qu'il a été dépouillé de ses vêtements. Ils vinrent au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le calvaire, et à ce moment-là, donc on lui propose ce 20 mêlées de myrrhe, 20 mêlées de fiel, 20 mêlées de myrrhe, hein, suivant la version, suivant les évangélistes, hein, 20 mêlées de myrrhe, donc qui était ce breuvage qui avait pour effet, bien souvent, justement, d'anesthésier un peu la souffrance, ouais, d'insensibiliser un petit peu les corps qui étaient soumis à un tel traitement pour donc soulager un peu la souffrance. Mais notre Seigneur, quant à lui, il n'a pas refusé. Il refuse ce breuvage. Il veut vraiment goûter la souffrance jusqu'au fond, boire le calice jusqu'à la lie, et il refuse tout soulagement à sa souffrance. Ils donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ou bien, quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Et en même temps, donc, on crucifiait avec lui deux voleurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ils mirent au-dessus de sa tête une inscription indiquant le sujet de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Donc, achevons d'abord la question du dépouillement des vêtements. Nous verrons un peu plus loin, mais enfin, on peut regrouper un petit peu tout cela. Quels étaient les vêtements que portait notre Seigneur? C'était les vêtements que portaient tous les Juifs à l'époque. Semble-t-il deux vêtements, un vêtement de dessous, si l'on peut dire, et un vêtement de dessous, bon, au-dessus d'une sorte de manteau. Manteau composé de plusieurs pièces d'étoffe, cousues ensemble, que donc on pouvait découdre facilement et se partager. Alors que le vêtement de dessous, le vêtement qui adhérait donc au corps, qu'on appelle la tunique, elle très souvent était formée d'une seule pièce. Oui, c'était donc un vêtement d'une seule pièce, et que donc on ne pouvait pas, on pouvait bien sûr toujours la déchirer, ça c'est toujours possible, mais à partir du moment où vous déchirez une pièce d'étoffe, eh bien vous lui retirez toute sa valeur, ça ne vaut plus rien, une étoffe déchirée, bon, ça ne représente plus grand chose, ouais. Et c'est ce qui se passe avec notre Seigneur. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, en firent quatre parts, une pour chacun d'eux, et prirent la tunique, mais la tunique était sans couture, tissé depuis le haut, tout d'une pièce. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Et donc le manteau est partagé, mais la tunique, elle est tirée au sort. Donc voici nos soldats qui jouent au dé, sans doute avait-il amené ces jeux de dé pour passer le temps, parce que bien souvent ça durait longtemps, l'agonie des crucifiés, et ils vont tirer cette tunique au sort, hein, savoir à qui elle reviendra dans son intégrité. Et ainsi il réalise, nous le verrons tout à l'heure, cette prophétie hein, que nous connaissons bien, que vous connaissez peut-être dans ce psaume 21. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma robe au sort. Extraordinaire, hein, c'est la passion du Christ telle qu'elle s'est déroulée a réalisé à la perfection toutes les prophéties, l'une après l'autre, toutes. Or ces prophéties n'ont pas été fabriquées après coup. Les Juifs les connaissaient. Ils les connaissaient. S'ils avaient un minimum, d'intelligence, s'ils n'avaient pas eu l'esprit aveuglé par leur haine, ils auraient compris que tout se déroulait tel que la Bible l'annonçait, tel que les prophètes l'avaient prédit. Mais non, ils n'ont rien vu, ou du moins, ils n'ont rien voulu voir. Donc notre Seigneur est cloué sur la croix, comment cela s'est-il passé? Bien sans doute a-t-il été allongé sur le sol, et à ce moment-là, ses bras étendus pour être cloués. Donc les mains d'abord sont clouées sur le patibulum, sur la pièce de bois qu'il avait portée depuis le palais de Ponce Pilate. Oui. Donc les mains d'abord sont clouées, et par des clous, véritablement. Hein. Ce ne sont pas pas liés avec des cordes ou des choses comme ça, mais véritablement cloués, c'était l'habitude. Les deux procédés été réalisé, mais là, il n'y a aucun doute, hein, notre Seigneur a bel et bien été cloué, ses mains ont été transpercées, et ses pieds également le seront. Hein. Donc voici notre Seigneur qui est les bras, les mains cloués sur le batigoulou, mais à ce moment-là, comment les choses se passaient? Eh bien, c'est que l'on hissait. On hissait cette pièce de bois, ce batigoulou, oui, le long du stipès, du pieu, qui était planté en terre, oui, jusqu'à la hauteur suffisante pour que le corps du condamné puisse reposer sur cette corne-là. À ce moment-là, eh bien, la pièce était fixée, elle, à cette hauteur-là, et à ce moment-là, on fixait, on clouait les pieds du condamné sur le pieu vertical. Et donc notre Seigneur qui est hissé avec des cordes. Alors imaginez, bon, là aussi, ce que cette opération a pu causer comme souffrance chez lui, c'est tous ces tiraillements dans ses mains, dans tout son corps. Oui. Et puis une fois installé au sommet de la croix, eh bien ce sont les pieds qui à leur tour sont cloués pour être fixés sur le pieu vertical. Et à ce moment-là, donc, on fixe la tablette de condamnation au sommet, au-dessus de la tête de notre Seigneur. Et voici notre Seigneur, donc, quelle heure est-il à ce moment-là? Sans doute vers les midi, hein, c'est la sixième heure, disent les évangélistes. La sixième heure, et à partir de cette sixième heure, la chose vient un peu plus loin dans les évangiles, mais enfin, les ténèbres couvrirent la terre. Hein, du moment où notre Seigneur est... Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. À partir du moment où le Fils de Dieu est mis en croix, les ténèbres couvrent la terre. Alors toute la terre, bon, ça ne veut pas dire toute la surface du globe, sans doute, peu vraisemblable, mais en tout cas toute la région, au moins de Jérusalem, du Golgotha, de Jérusalem, des ténèbres dont personne ne peut expliquer l'origine. Alors bon, bien sûr, tous les rationalistes ont essayé de trouver toutes les explications possibles, mais aucune ne tient debout, une éclipse de soleil. Alors que ça, c'est la chose qui tient le moins debout, parce qu'on n'a aucune trace d'une éclipse de soleil en plein midi, alors que les savants, les astrologues, tout ça, n'ont aucune trace de quelque éclipse que ce soit, ou bien des vents, du sirocco, des tempêtes de sable. Donc alors que non, on ne parle pas de tempête, on ne parle pas de choses comme ça, on nous parle simplement de ténèbres. Les ténèbres qui s'emparent de la terre, de la sixième jusqu'à la neuvième heure, et bien des ténèbres qui sont simplement miraculeuses. C'est Dieu, justement, qui manifeste aux hommes qui sont présents qu'il se passe quelque chose de grave, et qui jette la terre dans la ténèbre, parce qu'on vient de mettre en croix son Fils. Voilà. Nous, le Père encore, Dieu le Père, la Sainte Trinité qui manifeste d'une certaine façon son émotion et sa colère, hein, contre ce que font les hommes. Silence absolu. Notre Seigneur est sur la croix. Et le récit de cette agonie de notre Seigneur est très, très sobre également. Dans les Saintes Écritures, hein, nous avons sept paroles, non, de Jésus-Christ. Quelques paroles de ceux qui sont ici, qui sont autour de lui, qui généralement sont plutôt des insultes. C'est cette parole, la toute première, et c'est tout notre Seigneur, bien sûr. Dieu, notre Seigneur, eh bien, va achever le cours de sa vie terrestre, eh bien, à l'image de ce qu'il a fait pendant toute sa vie. Que fait-il quand il est en croix? Bien, il s'occupe des hommes. Il ne s'occupe pas de lui. Il ne se penche pas sur sa souffrance. Il ne s'occupe pas de lui, mais il s'occupe des hommes. Il s'occupe de ceux qui l'entourent. Et le premier geste du cœur de Jésus-Christ, eh bien, c'est de prier pour ceux qui l'entourent, de prier pour ce bourreau, prier pour ceux qui sont là, au pied de la croix sans doute, et prier pour tous ceux qui sont cause de sa condamnation, cause de sa souffrance, cause de sa mort. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et bon, là-dessus, moi, je vous laisse méditer, je vous laisse un petit peu réfléchir là-dessus. Je vous dis, le cardinal Jeannet, une très très belle chose, hein, sur tout cela. Mais c'est déjà, je dirais, très, 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 très émouvant, bouleversant de voir, eh bien, que la première parole de Christ, alors qu'il est sur la croix, dans un état de souffrance que nous ne pouvons pas imaginer, eh bien, c'est d'intercéder pour ceux qui aiment maintenant. Et ça, c'est là. Et si on peut faire une petite réflexion, une petite application pratique, c'est la seule réponse chrétienne que nous devions faire à nos ennemis. Père, pardonnez-leur, il ne sait pas ce qu'il fait. Et si nous avions cette réaction, chaque fois que quelqu'un est pour nous cause de souffrance, mais ce serait merveilleux. Hein. Mais notre vie serait extraordinaire. Et la vie des autres aussi, en plus. C'est terrible cette réaction, c'est notre réaction naturelle. Dès que quelqu'un me marche sur les pieds, il a fait exprès. Pourquoi il aurait fait exprès? Il n'y a aucune raison pour qu'il ait fait exprès. Puis même s'il a fait exprès, que ça veut bien faire? Qu'il veut bien faire? Et son affaire, c'est pas la mienne. Il m'a marché sur l'orteil, par exemple, sous le pied. Alors, il n'a pas fait exprès, c'est pas possible. Et non. Et ben, en vengeance, il y a une rancune. C'est pas chrétien. Hein? Rappelez-vous ce que dit saint Thomas d'Aquin, mépriser et désirer ce que Jésus-Christ a méprisé et désiré sur la croix. Voilà. Père, pardonne-lui. Il ne s'aperçoit pas. Alors lui, il a fait attention, regardez un petit peu la somme de souffrance qu'il avait à connaître, lui infliger ses bourreaux. Hein. Alors s'il a fait pour une telle somme de souffrance, est-ce que nous ne pourrons pas le faire pour les petites misères que nous avons à connaître? Voilà, la toute première parole, donc, est une parole de miséricorde, c'est vraiment la parole du médiateur, le prêtre médiateur qui pardonne. Voyez, c'est une sorte de notion qui implore sur ces âmes-là, eh bien, l'absolution de leur père, le pardon de leur père. Et pendant ce temps-là, eh bien, que font les autres, les juifs? Eh bien sûr, ils sont là, ils font les 100 pas, si l'on peut dire, au pied de la croix, au pied des croix. Et que font-ils? Bien sûr, c'est facile maintenant. Ils font ce qu'ils n'ont jamais osé faire. Lorsqu'il était vivant, présent parmi eux, il commence à insulter notre Seigneur, à se moquer de lui, comme jamais il ne l'avait fait. Et toi, qui détruis le temple, qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. Facile d'insulter des gens comme ça. Quelqu'un qui est cloué sur la croix, vraiment, où est la gloire? Où est vraiment, on dirait, la virilité de lui adresser des paroles? C'est immonde. Il n'y a rien de plus bas, sans doute au monde, que d'insulter quelqu'un qui ne veut pas se défendre. C'est vrai. C'est vraiment le refus des faibles, ça. Le refus des minables. Lamentable. On peut rouler les mécaniques. Hein. Ben, qu'est-ce qu'ils craignent? Bon, mais qu'est-ce qu'ils craignent? Ils devraient le savoir, pourtant, ce qu'ils craignaient. Ils avaient beaucoup à craindre, ça. Et d'autres encore. Alors, évidemment, tout cela encourage un peu. Quand vous avez là les princes, les prêtres qui sont qui sont là, qui insultent un pauvre condamné, et puis voilà, ça encourage les autres faibles, les autres lâches, il y en a marre, et ça, toute cette foule de minables là qui continuent, qui font un peu chorus, et qui insultent de notre Seigneur, qui se moque de lui, c'est une sorte de dérision, il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, et qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Là, allez. Non, il n'est pas descendu de la croix, mais il est fort probable que s'il était descendu de la croix, qui aurait suivi? Qui aurait cru en lui? Est-ce que vraiment ces gens qui l'insultaient comme ça auraient accepté de croire en lui? Est-ce qu'ils auraient accepté de faire un acte d'humilité, de reconnaître qu'ils étaient trompés et de le suivre comme des disciples? Vous voyez bien. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Mais notre Seigneur se tait. Il se tait, il ne descend pas de la croix, car il faut qu'il meure sur la croix. Et il continue à prier pour ceux qui l'insultent, pour ceux qui se moquent de lui. Et bien sûr, tout cela encourage même, malheureusement, bien ceux qui, ces pauvres malheureux, ces pauvres bandits, qui souffrent avec lui, qui pourtant souffrent, semble-t-il, des mêmes souffrances et la même mort que lui, même ces deux bandits, ces deux larrons, qui entourent notre Seigneur, qui donc connaissent à peu près le même. Même souffrance que lui, mais voici qu'il y en a au moins un des deux bien qui emboîte le pas, si on peut dire. Hein. Sans doute un peu pour. Ça, c'est un réflexe aussi qui est mauvais, mais qui est bien naturel. Hein, quand on souffre, ouais. Quand on souffre, on aime voir souffrir quelqu'un d'autre. Hein. C'est terrible, c'est mauvais, ça, bien sûr. Hein. Quelqu'un qui souffre et qui n'arrive pas à se délivrer de sa souffrance, il ne sort parfois de joie mauvaise hein, à faire souffrir quelqu'un d'autre. Hein. Comme si on trouvait un certain soulagement, ouais, à ne pas être tout seul à souffrir. Et c'est vrai, ça existe, hein, malheureusement. Et ça, c'est une ignominie de Satan, par exemple. Satan qui vit dans une souffrance perpétuelle, éternelle. Il sait qu'elle est éternelle, sa souffrance. Mais il ne peut pas supporter d'être seul à souffrir. Alors, il veut entraîner les hommes dans la même souffrance que lui. Et il met toute sa joie, la seule joie que connaisse Satan, eh bien, c'est d'entraîner un homme en enfer, hein, de le plonger dans la même souffrance que lui. C'est immonde, immonde. Bon. Et bien voilà, donc, hein, malheureusement, un des bandits qui a été crucifié avec lui, mais qui se laisse prendre aussi un petit peu par cela. Hein. Puisque tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. Voilà, sorte de provocation un petit peu. Puisque tu as dit que tu étais crucifié, ben voilà, il fait un miracle, sauve-le un petit peu. Sur toi, et bien sauve-moi avec toi. Et puis cet autre-là, bon, ça c'est un épisode qui est magnifique et qui est aussi beau et aussi bouleversant en ce moment que cette parabole du Fils prodigue. Hein, c'est une parabole qui est magnifique. Hein, qui, on ne peut pas la dire sans pleurer, cette parabole du Fils prodigue. Moi je ne sais pas si vous y arrivez, mais moi j'y arrive pas. Bon, voilà, c'est tellement le bon Dieu. C'est ça le bon Dieu. Le bon Dieu qui a un cœur grand comme le monde, un plus grand comme le monde, et qui ne peut pas s'empêcher de pardonner. On lui met toute sa joie à pardonner. Et nous, on est trop bêtes pour ne pas avoir confiance. Nous, on est même bêtes au point de ne pas oser demander pardon. Dis-nous alors que bon, il manque que ça. Et donc, voici cet autre larron qui était un bon livre. Attention, ne croyons pas que c'était un pauvre comme ça, victime innocente, etc. Comme vous, il valait bien un bon livre, on ne sait pas ce qu'il avait fait, mais enfin. Et qui est choqué quand même par cette réflexion de l'autre bandit, hein, et qui sans doute est un peu touché, ému aussi, bouleversé peut-être par la paix, le silence, la sérénité de notre Seigneur sur la croix, qui prend sa défense, qui dit non. Ne crains-tu donc pas Dieu, toi inclus, impliqué que tu es dans la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Magnifique. Voilà la première confession publique. Pour nous, c'est justice. C'est juste, j'ai péché. Hein? Pour nous, c'est juste. Nous avons péché. Nous sommes pécheurs. Oui. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais lui n'a rien fait. Et pour nous, donc, c'est justice. Donc, il reconnaît effectivement sa faute, son péché, la justesse de sa condamnation. Mais lui, non. Non, lui, c'est pas normal. Alors, tu dois arrêter de l'insulter, ça suffit. Hein? Voilà. Et à ce moment-là, il se tourne vers notre Seigneur, et c'est très 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 beau, cette phrase que vous connaissez, hein, Jésus. Souviens-toi de moi quand tu arriveras dans ton royaume. Et c'est être faible, hein. Je ne sais pas qui était cet homme-là, mais bon, voilà, c'est un acte de foi extraordinaire, ça. Jésus, souviens-toi de moi quand tu arriveras dans ton royaume. Et donc, il proclame la divinité du Christ. Voilà. Bientôt, tu seras dans ton royaume, le royaume de Dieu, le royaume de ton Père, et bien quand tu y seras, pense à moi. Magnifique, récompense. Récompense, et bien, de cette confession, de cet acte de foi, bien sûr, aussi le premier saint canonisé de son vivant, qui plus est, et par Dieu lui-même. Ah, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un qui s'est arrivé. Hein. C'est ce bon larron. En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Je pense qu'il a dû mourir en paix, celui-là. Non, si on entendait ça, sur l'île notre mort, je ne sais pas. Aujourd'hui, je serai en paradis. Et oui, mais ça m'a attention, hein, voilà, il y a les conditions à remplir. Hein, bon, voilà. Il y a l'aveu un petit peu de ce que l'on est, de sa misère et cet acte de foi. Aveugle, fou même un petit peu, en notre Seigneur, parce que rien ne lui disait qu'il était Dieu. Non, un homme qui est là, écartelé, qui est là aussi. Ensanglanté, qui est en train de mourir, bon, sa divinité, c'est pas très très évident, hein. Et pourtant il y a cru. Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Voilà. Alors ce paradis, là, dont il parle sans doute, n'est-ce pas encore le paradis, le vrai paradis, sans dire le paradis final, mais c'est le séjour des morts, hein, celui qui servait un petit peu de lieu d'attente, avant l'ouverture du paradis, car il est évident que le premier à rentrer au paradis, ce sera notre Seigneur. C'est bien la moindre des choses quand même. C'est lui qui rentrera au paradis le premier et qui ouvrera le paradis et pour tous ceux qui attendaient, tous les justes de l'Ancien Testament, y compris ce bon larron. Donc aujourd'hui, eh bien, il va aller au paradis, le Saint d'Abraham, bon, ce qu'on appelle les enfers, ces enfers auxquels notre Seigneur va descendre après sa mort, où attendaient les âmes des justes, hein, en attendant que le paradis soit ouvert. Et au pied de la croix, bien donc nous avons vu un peu les juifs, etc. Bon, sur la croix, ces autres brigands qui l'entourent, dont à l'insulte de l'autre, au contraire, eh bien, obtient le pardon de ses péchés, la promesse du paradis, puis au pied de la croix, eh bien, il y a un petit groupe là. C'est toute l'église qui est là, au pied de la croix. C'est toute l'église qui est là. Vous avez Saint Jean. Le disciple que Jésus aimait, dit Saint Jean, d'ailleurs, justement, c'est lui qui écrit, chaque fois que Saint Jean parle du disciple que Jésus aimait, c'est lui, il ne veut pas se désigner lui-même directement, il le fait de façon indirecte. Cependant, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie Madeleine. Ayant donc vu sa mère, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, femme, voilà votre fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et à partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. C'est là la troisième parole de notre Seigneur sur la croix. Et voyez, les trois premières paroles de Jésus-Christ, eh bien, ont trait à quelqu'un d'autre qu'à lui. Première, c'est le pardon des péchés de ceux qui le mettent à mort. La deuxième, eh bien, c'est le paradis promis au bon larron. Et la troisième, eh bien, c'est pour sa mère et pour Saint Jean. Voilà. Il donne l'un à l'autre. Et au pied de la croix, je vous disais qu'il y a toute l'Église, car effectivement, vous avez toute l'Église. Vous avez le prêtre, c'est Saint Jean. Vous avez la Vierge, c'est Marie, Notre-Dame, bien sûr. Et puis vous avez même l'Église pénitente, l'Église pécheresse, Marie-Madeleine. Voilà. Vous avez à peu près, je dirais, tout ce qui constitue essentiellement l'Église. L'Église qui est composée de pécheurs et dans laquelle il faut des prêtres, bien sûr, c'est Saint Jean, et il faut aussi des vierges, hein, ce sont bon, toutes les âmes saintes, les âmes contemplatives, les âmes religieuses, bon, bien sûr, tout cela réuni sous le manteau de Notre-Dame. Hein, et là, c'est toute l'Église qui est donc représentée au pied de la croix. Alors, bien sûr, il n'y a plus de femmes que d'hommes. Là, c'est une vieille tradition dans l'Église. Hein. Et même dans l'histoire de l'humanité. Les hommes font toujours les fiers. Enfin, bon, voilà. Il y avait un homme, quand même, attention, il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas. Il y avait quand même un évêque, vous voyez. Alors, bien sûr, certains comparaient un petit peu cet évêque à d'autres évêques ou à un autre évêque que nous avons connu, qui effectivement était tout seul, lui aussi, peut-être au calvaire, au pied de la croix. Bon, alors, ce sont des applications que nous pouvons faire, bien sûr, ça n'est pas défendu. Voilà, donc ce petit groupe qui était là vraiment, semble-t-il, au pied de la croix, le plus près possible, au moins de la croix, qu'il pouvait approcher. Car les soldats gardaient le lieu du supplice, ils empêchaient que l'on puisse approcher de trop près, mais enfin, sans doute était-il là, comme à portée de regard de notre Seigneur, et notre Seigneur, donc, eh bien, dans son agonie, baisse les yeux vers sa mère, et bon, je dirais, Dieu seul sait ce qui a pu se passer à ce moment-là entre elle et lui, hein, un fils crucifié sur la croix, qui regarde sa mère qui le regarde. Sa mère qui est debout, là, au pied de la croix, hein, nous chantons Stabat. Stabat. Elle tenait debout. Elle se tenait debout. Avec force, la Vierge. Quelle femme, c'est vrai. Hein. C'est quelque chose, hein, trop souvent. Hein. On se représente Notre-Dame un peu comme... vous voyez, un peu comme ça. Toute tendre, toute molle, toute douce. Bon, c'est vrai, elle est douce. Un peu, certainement très douce, mais très forte également. Hein. Trouvez-moi, ça n'existe pas, hein, bien sûr, mais des femmes capables de rester debout comme ça devant un tel spectacle, une telle souffrance au fond de leur âme, de leur cœur, mais la femme forte, hein, une foi extraordinaire, hein, une espérance.
Et notre Seigneur qui baisse les yeux vers cette mère bénie entre toutes les femmes, qui est finalement son dernier trésor, c'est tout ce qui lui reste ici-bas. Il a tout perdu, on l'a tout pris. Ses amis même se sont enfuis, sauf quelques-uns, un tout petit nombre. Son dernier trésor, la chose qui lui tient le plus à cœur, eh bien, comme à chacun d'entre nous, c'est sa mère. Voilà, cette mère que l'on cherche au moment de mourir, cette maman que l'on appelle, ça c'est un fait constant dans l'humanité. Tout homme sur le point de mourir appelle maman, et notre Seigneur est sur le point de mourir, et au lieu d'appeler sa mère, au lieu de vouloir encore, de chercher à la retenir près de lui pour en retirer, recevoir quelque consolation, eh bien non, au contraire, il s'en sépare, il la donne, il nous la donne. Femme, voici ton fils. Et se tournant vers le disciple bien-aimé, voici ta mère. Et ces phrases toutes simples que nous connaissons bien, que Saint Jean est le seul à nous rapporter, c'est un signe cela, Saint Jean, l'apôtre marial, vraiment le premier dévot de Notre-Dame, c'est lui qui nous raconte cela, cet échange, bien sûr, il peut nous le raconter parce que c'est lui qui a reçu la mère de Jésus en dépôt, c'est lui qui a eu à veiller sur elle, à la garder, si l'on peut dire, pour chacun d'entre nous. Il représente le sacerdoce, là, au pied de la croix. Il représente tous les fidèles, tous les enfants de Dieu. Et voilà, il reçoit la mère de Dieu. Oui, c'est une chose qui est étonnante, cela. Enfin, étonnante, bouleversante et très divine, justement. Eh bien, c'est que notre Seigneur se sépare de tout. Il ne veut plus rien avoir en propre. Il va mourir. Il veut mourir tout seul. Tout seul. Il veut vraiment, vous voyez, plonger au fond de toutes les souffrances humaines. Vraiment connaître cette déréliction, ce qu'on appelle la déréliction, et ce sentiment de solitude, d'abandon. Ne plus avoir autour de lui la moindre consolation. Voilà. Même sa mère, vous voyez, saint Thomas d'Aquin nous disait que sa mère lui était d'une certaine façon un sujet de souffrance, parce qu'il la voyait souffrir, et un fils qui fait souffrir sa mère, eh bien, souffre de cette souffrance. Oui. Bon, mais malgré tout, la mère, c'est la mère. Eh bien, Jésus-Christ se sépare d'elle, il s'en sépare, c'est fini. D'une certaine façon, elle n'est plus sa mère. Elle devient la mère des hommes, la mère de l'Église, la mère du prêtre, etc. Et maintenant, eh bien, notre Seigneur reste seul. Oui, il faudrait comprendre un peu ce qui se passe dans l'âme du Christ à ce moment-là. Ce profond désarroi humain, ce qu'on appelle la déréliction, ce sentiment d'abandon. Il n'y a plus rien autour de lui sur quoi il puisse s'appuyer, en quoi il puisse se reposer. Il se tourne vers le ciel est vide, le ciel se tait, le ciel est silencieux. Et même, hein, nous le savons, depuis la sixième jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, le ciel est bouché. Donc du côté du ciel, c'est le silence. Son Père se tait. Son Père ne vient pas à son secours. Il le sait, bien sûr. Il sait qu'il doit mourir. Il sait. Mais ça n'empêche pas la souffrance d'être très réelle et très, 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 très cruelle au fond de lui. Il regarde vers la terre et là, que voit-il? Plus rien. Plus rien. Bon, c'est le vide. Ses amis l'ont abandonné. Sa mère, eh bien, n'est déjà plus sa mère. Elle est devenue la nôtre. Et il est seul avec sa souffrance. Et c'est au fond de ses tourments les plus atroces, et au fond desquels il ne trouve aucun repos, aucun soulagement, et bien que jaillit de son âme, de son cœur, de tout lui-même, ce cri vers le ciel. À la neuvième heure, nous dit l'apôtre, nous dit l'évangéliste, à la neuvième heure. Oui, alors que cela fait 3 heures, donc, à peu près, qu'il est en croix, l'agonie touche à sa fin, et notre Seigneur, donc, après s'être occupé des hommes, leur avoir imploré pour eux, leur avoir imploré la miséricorde de son Père, après avoir ouvert le paradis, déjà, ou entrouvert au moins le paradis au bon larron, après avoir donné sa mère à chacun d'entre nous, bien, notre Seigneur est tout seul, et à ce moment-là, bien, c'est ce cri. Ce cri, non pas de désespoir, bien sûr, mais ce cri de solitude, d'abandon et d'inquiétude, d'angoisse, et qui monte vers le ciel. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Alors on voit toujours dans ce cri de notre Seigneur un cri justement d'angoisse. Notre Seigneur semble gémir, se plaindre. À la limite, c'est ça, un petit peu réclamé auprès de son Père, mais enfin, pourquoi m'abandonnez-vous? Pourquoi ne venez-vous pas à mon aide, à mon secours? Oui. On a l'impression que Jésus crie au secours, qu'il est là, vraiment aux limites du désespoir humain, que cela tient à très très peu de choses. Non, non, ce n'est pas cela. Oui. Si nous voulons bien comprendre cette parole de Jésus-Christ, cette quatrième parole de Jésus-Christ, il faut la remettre un petit peu à sa place, car cette parole est le premier verset d'un psaume qui est très long. C'est le psaume 21, le psaume 21 qui a 32 versets. Hein, psaume 21, qui est un psaume magnifique. Alors bien sûr, qui commence justement, vous voyez, par ces de longues paroles de, je dirais, de gémissement, de lamentation, de désolation, c'est vrai, mais qui s'achève dans un cri de joie, un cri d'espérance, un cri de confiance, un cri même de triomphe, vous voyez. Et ce psaume est très beau. Et certains auteurs pensent que Jésus-Christ, sur la croix, ne s'est pas contenté de dire le premier verset. Certains pensent que même il aurait, d'une certaine façon, un petit peu, vous voyez, dit, récité le psaume en son entier. Oui, donc, cela a dû prendre un certain temps. Mais de toute façon, même s'il n'a pas récité tout le psaume, ce qui est possible aussi, malgré tout, son état de souffrance justifierait tout à fait. Ce premier verset suffit tout à fait. Parce que les Juifs qui étaient là connaissent la Bible. Ils connaissaient parfaitement la loi et les prophètes. Ils pouvaient les réciter par cœur, tous ces psaumes. Ils les récitaient sans cesse. C'était toute leur prière. Était enfermé dans ces psaumes, donc ce psaume, il le connaissait. Eli, Eli, lama sabachthani, et il pouvait continuer de même, tout le psaume, jusqu'à la fin, verset après verset. Et donc, voyez, en disant cette parole, sans doute était-ce un cri de souffrance de Jésus-Christ, mais c'était encore un enseignement. Jésus-Christ disait à ceux qui étaient au pied de la croix, « Lisez donc les Écritures, scrutez les Écritures et vous comprendrez qui je suis. » Vous comprendrez que j'étais annoncé depuis longtemps, car ce psaume 21, il est de David. Il est de David, donc il a pris, ça fait près de 1000 ans qu'il est composé, et ça n'est pas quelque chose de nouveau, d'improvisé pour l'occasion. Non, 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 tout est prédit, tout est prévu. Et tout spécialement, justement, la passion de notre Seigneur. Et si nous lisons quelques versets de ce psaume, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je gémis et le salut reste loin de moi. Mon Dieu, je crie pendant le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Et pourtant tu es saint, tu habites parmi les hymnes d'Israël, etc. Oui. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le rebut du peuple. Oui. » Voilà, c'est exactement ce qu'est devenu notre Seigneur, que déjà décrivait David 1000 ans à l'avance. Et là, c'est ces versets qui disent ce qui vient de se passer, l'attitude des Juifs au pied de la croix. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, ils branlent la tête en disant qu'ils s'abandonnent à Jéhovah, qu'ils le sauvent, qu'ils le délivrent puisqu'ils l'aiment. » Oui, c'est ce que les Juifs disaient quelques instants avant. Exactement, oui. Les Juifs eux-mêmes ont réalisé la prophétie de David, mais ils n'ont pas compris. Ils ne se sont pas reconnus. C'est terrible cet aveuglement quand même. Terrible, terrible, oui. Ne t'éloigne pas de moi, car l'angoisse est proche et personne ne vient à mon secours. Autour de moi sont de nombreux taureaux, les forts de Bazan m'environnent, etc. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os sont disjoints. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force s'est desséchée comme un tesson d'argile et ma langue s'attache à mon palais. Oui, c'est pourquoi quelques instants après, il va dire « j'ai soif ». Oui, cette langue, cette gorge qui est sèche, desséchée par la soif, sans doute par la souffrance. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Ça n'a pas dû leur plaire, ça, évidemment. Une troupe de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me contemplent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Jéhovah, ne t'éloigne pas. Vous voyez, tout est décrit, tout était annoncé et tout vient de se dérouler devant les yeux des Juifs. Ils n'ont pas compris. Vous voyez, donc il y a cette première partie dans le psaume qui effectivement est une partie donc, de désolation, de plainte, de gémissement. Mais alors la finale, ensuite, à partir du verset 23, pratiquement, au contraire, là, le ton change radicalement. Vous voyez, bon, après avoir décrit un peu cette désolation, bien c'est un cri de confiance, un cri d'espérance, un cri de victoire même, qui jaillit de l'âme du psalmiste et de l'âme de Jésus-Christ. « Alors j'annoncerai ton nom à mes frères, et au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez Jéhovah, louez-le, vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, révérez-le, etc. Car il n'a pas méprisé, il n'a pas rejeté la souffrance de l'affligé, il n'a pas caché sa face devant lui, et quand l'affligé a crié vers lui, il l'a entendu. » Confiance. Oui, je gémis, je crie vers lui, mais il m'entend, et il viendra à mon secours. Et grâce à toi, mon hymne retentira dans la grande assemblée. Les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers Jéhovah, et toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Car à Jéhovah appartient l'empire, il domine sur les nations, les puissants de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent à la poussière, ceux qui ne peuvent prolonger leur vie, la postérité les servira, etc. Oui. Triomphe final, souffrance actuelle, mais ensuite triomphe final. Oui. Très beau psaume. Qui est prophétique, bien sûr, mais qui, malheureusement, dirait, bien, n'a pas suffi à ouvrir les yeux, les oreilles, les cœurs des Juifs qui étaient là et qui se moquaient, qui continuaient à se moquer de notre Seigneur. Oui, donc, notre Seigneur, petit à petit, s'enfonce dans sa souffrance. Oui, bon, et nous avons ensuite cette cinquième parole. Bon, sur laquelle, bien sûr, tous les auteurs spirituels s'étendent en commentaire, hein, cette parole très simple, un seul mot en latin, sit sio, j'ai soif. Soif humaine, bien sûr, soif physique, même si l'on peut dire, oui, recherche d'un certain soulagement, peut-être, à sa souffrance, mais surtout cette soif intérieure, hein, soif de quoi avait soif notre Seigneur, soif de la gloire de son Père. Soif du salut des âmes, voilà la grande soif qui tenaille l'âme de Jésus-Christ pendant son agonie. Ce dont il a soif, c'est glorifier son Père. Et cette soif, eh bien, ne sera apaisée que lorsqu'il sera mort. Rien d'autre, voyez, rien d'autre ne peut apaiser cette soif que le moment, l'instant glorieux et douloureux où il remettra son âme entre les mains de son Père. À ce moment-là, eh bien, il rendra à son Père tout honneur et toute gloire, et il délivrera toutes nos âmes du péché et de la mort. La route du salut, la route du ciel, la route du cœur de Dieu sera ouverte, et c'est de cela qu'il a soif. Il a soif, bien sûr, aussi d'amis, de consolateurs, d'âmes compatissantes, bien sûr, il a soif de tout cela. Il réclame cela de chacun d'entre nous, hein, cette soif immense, voyez, qui est multiforme de notre Seigneur, et qu'il nous faut essayer peut-être d'apaiser de notre côté. J'ai soif, alors bien c'est à ce moment-là, hein, que certains des soldats qui étaient là au pied de la croix, bon, qui se sont mépris un petit peu sur la parole précédente, certains ont dit, regarde, il appelle Élie. Ouais. Et Saint Jean, lui, commente cette parole de notre Seigneur, j'ai soif. Après cela, Jésus, sachant que tout était accompli, afin que l'Écriture fût accomplie, dit, j'ai soif. Oui, c'est toujours pour accomplir l'Écriture. Oui, c'est une référence encore à ce psaume 21 que nous venons de lire. Hein. Ma gorge est desséchée, ma langue s'est attachée à ma gorge. Oui. Bien, j'ai soif. Et d'autres, à ce moment-là, un soldat, bon, ému de compassion, ému de pitié, ouais, accourant, prit une éponge et la remplit de vinaigre, et l'ayant attachée à un roseau, lui donnait à boire. Ouais. Mais les autres, eh bien, veulent l'en empêcher. Ouais. Laisse, voyons si Élie viendra le délivrer. Ouais, c'est cette méchanceté jusqu'au bout. C'est affreux, ça, vraiment, voilà. Il est sur le point de mourir, il va rendre l'âme dans quelques instants, vraiment, c'est clair, la chose est tellement, tellement proche, hein. C'est voilà, un dernier soulagement que l'un d'entre eux veut lui apporter, et bien les autres, eh bien, non, veulent l'en empêcher, non, voyons un petit peu si Élie viendra le délivrer, cette dérision qui va poursuivre notre Seigneur jusqu'à la fin. Et effectivement, la fin approche, oui, sixième parole de Jésus-Christ. Sixième parole, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, consumatum est. Voilà. J'ai achevé l'œuvre que vous m'aviez donné à faire. Oui, cela nous ramène à cette prière sacerdotale après la scène, puisque la scène, c'est déjà le calvaire anticipé. Il est normal que nous ayons une certaine correspondance entre les deux. Et notre Seigneur, eh bien, après la scène, dans sa prière sacerdotale, il a dit, voilà, j'ai achevé l'œuvre que vous m'aviez donnée à faire. Et quelle était cette œuvre? Eh bien, c'était l'œuvre de notre salut, l'œuvre de la glorification de son Père. Oui, rappelez-vous, au jour de son baptême, Lorsque notre Seigneur s'approche de Saint Jean-Baptiste, celui-ci se défend, dit non, ce n'est pas à moi, c'est à vous plutôt à me baptiser, etc. Ce sont de petites disputes, là, de préséance. Et notre Seigneur lui a répondu, laisse pour l'instant, il nous faut accomplir toute justice. Voilà, ça c'était la parole qui a inauguré le ministère de Jésus-Christ, il nous faut accomplir toute la justice, et bien maintenant ça y est. La chose est faite, toute la justice est accomplie, toute la gloire qui est due à son Père lui est rendue par ma mort, par la mort du Christ. Eh bien, tout honneur et toute gloire sont rendus à son Père. Oui, tout est accompli, c'est fini. Et donc un peu plus tard, eh bien, peut-être dernier mouvement, dernière ultime parole de notre Seigneur. Père, je remets mon esprit entre tes mains. In manus tuas commendo spiritum meum. Puis, il abaissa la tête et il rendit l'esprit. In manus tuas commendo spiritum meum. Vous voyez, c'est notre Seigneur qui est maître de sa passion. C'est à l'instant, au moment même qu'il l'a choisi, lui-même, eh bien, qu'il détache, si l'on peut dire, son âme de son corps, pour la remettre entre les mains de son Père, puisque tout est accompli. Son âme n'a plus rien à faire ici-bas dans ce corps. Ce corps peut être abandonné à la mort, et cette âme sainte, cette âme toute pleine de Dieu, cette âme qui est l'âme de Dieu, si l'on peut dire d'une certaine façon, cette âme qui est toute emplie de charité et de désir, de soif de la gloire de Dieu, eh bien cette âme, il la remet entre les mains de son Père. C'est une très belle parole, nous la disons tous les soirs, lorsque nous chantons les complis. In manus tuas commendo spiritum meum. Oui, chaque soir, voilà, avant de nous retirer, nous remettons, nous confions à la garde de Dieu notre âme, cette âme dont nous espérons qu'elle a été bonne, qu'elle a bien travaillé, qu'elle a bien œuvré, qu'elle a bien prié pendant cette journée. Eh bien, nous la reposons entre les mains de Dieu pour la nuit. Voilà, puis le lendemain matin, bien, on essaiera de repartir comme il convient. Oui, c'est très beau, ça, ce verset que nous disons tous les soirs, et il faudrait que nous le disions dans ces mêmes dispositions de Jésus-Christ. Voilà, j'ai achevé l'œuvre que vous m'avez donnée à faire. Ma journée a été ce que vous vouliez qu'elle soit. Alors, ben voilà, je remets mon âme entre vos mains. Et il a baissé la tête, et c'est la mort. Donc, il rend l'âme. Et il y a un autre... Bon, les versets sont un petit peu, les récits de la mort du Christ sont un petit peu différents. Chaque apôtre complète, chaque évangéliste complète l'autre. Et c'est Saint Luc qui nous rapporte cette parole. Père, je remets mon âme entre vos mains. Mais les autres évangélistes, pas Saint Jean, mais Saint Matthieu et Saint Marc, eux, ont une formulation un petit peu différente. Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Ou bien Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Oui, un grand cri. Alors ce cri qu'a poussé notre Seigneur, bon, est-ce que c'est la même chose que cette dernière parole? Est-ce que c'est autre chose? Bon, à la limite, peu importe. Mais ce qui est très, très éclairant, et Saint Thomas d'Aquin va nous commenter un petit peu la chose, c'est le fait du grand cri. Grand cri, oui, c'est... Oui, ce qu'il dit ici... Bon, on peut traduire cela d'une autre façon, vous voyez, certains auteurs traduisent « Jésus, jetant un cri d'une voix forte, rendit l'esprit ». Donc ce qui est étonnant, c'est cette force que l'on trouve chez un agonisant, chez un mourant. Vous voyez, après tout ce qu'il a connu depuis presque une journée, hein, depuis 24 heures, ses souffrances, qu'il trouve encore en lui, bien, de quoi pousser un grand cri. Bien, voici ce que dit saint Thomas. Deux choses, vous voyez, qu'il relève dans ce grand cri. Le Christ, pour montrer que la passion qu'il souffrait ne lui enlevait pas la vie par violence, conserva sa nature corporelle dans toute sa force, pour bien montrer que, eh bien, qu'il était maître de sa vie. Il a voulu garder toute sa force à sa nature. De manière qu'étant à l'extrémité, il poussa un très grand cri, selon ce que l'on compte parmi les autres miracles qui ont accompagné sa mort. Oui, c'est un miracle, ce grand cri. Ce ne sera pas le dernier miracle de notre Seigneur, mais c'est un miracle très, très étonnant et qui, effectivement, aura des effets immédiats sur ceux qui entourent la croix. Oui. Comme il conserva par sa volonté sa nature corporelle dans toute sa vigueur jusqu'à la fin, de même, quand il le voulut, elle succomba immédiatement au mauvais traitement qu'elle avait reçu. Personne ne m'ôte, ne me prend la vie, mais c'est moi-même qui la donne. Vous voyez, par ce grand cri qu'il pousse, notre Seigneur manifeste qu'il a encore en lui toute sa vigueur, toute la vie dont il peut jouir. Vous voyez, et que c'est le fait de rendre l'âme, eh bien, c'est un acte libre, c'est un acte personnel, c'est lui qui rend son âme et personne ne la lui prend. Donc il affirme encore là, il clame sa souveraineté et sa divinité. C'est un miracle, ce cri. Ou encore, ouais, un autre texte dans les opuscules de saint Thomas d'Aquin. Il était au pouvoir du Christ de rendre permanente à son gré l'union de son âme avec son corps ou de s'en séparer. Comme il le voulait, il est maître de la vie. Le centurion présent au crucifiement du Christ comprit cet indice de la puissance divine lorsqu'il le vit pousser en expirant un cri qui montrait évidemment qu'il ne mourrait pas comme les autres hommes par une défaillance de la nature, car les hommes ne peuvent rendre l'âme en poussant des cris, puisque dans ce moment suprême, ils peuvent à peine produire en palpitant un léger mouvement de langue. C'est pourquoi le Christ, par ce cri qu'il poussa en expirant, a manifesté en lui la puissance divine, et c'est pour cette raison que le centurion s'écria, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Vous voyez, et il est vrai que quelqu'un qui meurt, bon, peut-être avant la mort, gémit-il, peut-être même peut-il pousser des cris, mais au moment même de rendre l'âme, il dirait, toutes les forces humaines sont anéanties, il n'y a plus en lui de quoi pousser un grand cri. Et pourtant, c'est ce qu'a fait notre Seigneur. Donc il n'est pas mort par une nécessité naturelle, il n'est pas mort par une défaillance de la nature, mais il est mort parce qu'il l'a voulu. Et gardant toute sa vigueur, donc il a pu pousser ce grand cri, et c'est ce grand cri qui précisément a touché l'âme de ce centurion, et qui en tire justement cet acte de foi, car la mort du Christ accompagné de miracles, bon, qui auraient dû suffire encore aussi à ouvrir les esprits des Juifs de Jérusalem. D'abord le voile du temple qui est déchiré pour montrer justement bien que c'en est fini. C'en est fini de la loi ancienne. Le temple n'a plus de raison d'être. Les sacrifices de la loi mosaïque n'ont plus de raison d'être. C'est fini. Le temple peut être détruit. Le temple peut être abandonné. Les sacrifices de l'ancienne loi n'ont plus de raison d'être puisque le sacrifice de la nouvelle loi, le vrai sacrifice, l'unique sacrifice rédempteur vient d'être offert à Dieu. Donc, le voile du temple se déchire, les rochers se fendirent. Rappelez-vous ce que nous disait saint Thomas. Et c'est, alors que nous, nos têtes ont du mal à se fendre, vous voyez, devant l'évidence, eh bien, voici que eux, les rochers, se fendent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs saints, dont les corps y étaient endormis, ressuscitèrent. Étant sortis de leur tombeau, ils entrèrent après la résurrection de Jésus dans la ville sainte et apparurent à de nombreuses personnes. Et là, c'est une précision qui est importante. Hein. Bon, sans doute, les sépulcres se sont-ils ouverts, mais les morts n'ont ressuscité qu'après la résurrection de notre Seigneur. Hein. De même que les justes qui étaient au limbe, qui étaient aux enfers, on ne vont monter au paradis qu'après l'ascension. C'est notre Seigneur qui doit rentrer le premier au paradis dans le sein de son Père, bien sûr, et les autres, eh bien, attendent et suivent, vont suivre derrière lui. Et bien, de même, il faut qu'il soit ressuscité pour que les autres ressuscitent. Il est le premier d'entre les morts, le premier à ressusciter, donc ces sépulcres ouverts ne verront la résurrection des corps qui y sont enfermés. Eh bien, que le jour de Pâques, après la résurrection de notre Seigneur, et c'est ce jour-là, eh bien, qu'on les verra apparaître dans la ville sainte de Jérusalem. Et les rochers se sont fendus, bon, notamment ce rocher du calvaire. Alors, moi, je ne suis pas allé à Jérusalem, enfin, ceux qui y sont allés ont vu, sans doute, on montre là-bas, dans le rocher du Golgotha, voyez, qui est inclus dans la basilique du Saint-Sépulcre, voyez, cette paroi rocheuse. Une fente, paraît-il, longue d'environ 1,70 m et large de 25 cm. Une fente dans le rocher qui est très, très étrange, anormale, miraculeuse, non naturelle en tout cas, car elle ne va pas dans le sens de la roche, le sens des veines de la roche. Ce n'est pas une fente donc naturelle Au contraire, elle coupe ses veines, paraît-il, transversalement. Oui. Donc ce n'est pas normal. Elle a été produite par une autre force, oui, que des forces naturelles. Et donc c'est le signe, justement, oui, de cette émotion de la nature au moment de la mort du Christ. Oui. Et puis les autres miracles sont des miracles intérieurs, miracles de conversion, miracles de lumière, hein, notamment. Donc nous l'avons vu, ce centurion qui est bouleversé par ce cri de notre Seigneur et vraiment cet homme était injuste, ou bien encore vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Voilà, centurion donc qui proclame, qui affirme la divinité de celui qui vient de mourir. C'est peut-être un peu tard, mais ça n'est jamais trop tard. Un acte de foi ne vient jamais trop tard tant qu'il vient avant notre propre mort. Et donc espérons que ce centurion a ensuite été fidèle à cette reconnaissance de la divinité. Et même les foules qui étaient ici, au pied de la croix, semble-t-il, ont été touchées, émues par tout ce qu'elles avaient vu, tout ce qu'elles avaient entendu, toute cette émotion même de la nature, les rochers, les sépulcres, tout ça, ce grand cri de notre Seigneur. Et les membres du Sanhédrin, sans doute, sont repartis. Ils sont descendus en ville pour savourer peut-être leur triomphe, et les pauvres gens qui étaient là, eh bien, se retrouvant enfin seuls et délivrés de ces artisans de méchanceté, de ces artisans de malheur, hein, eh bien, retrouvent peut-être un peu leur bon sens, leur simplicité, leur bonté naturelle. Et ils redescendent, nous dit l'Évangile. Ils redescendent en se frappant la poitrine. Toute la foule de ceux qui assistaient à ce spectacle et qui voyaient ce qui se passait s'en retournaient en se frappant la poitrine. Voilà. Ils ont compris, bien qu'il s'était passé des choses grandes, immenses, douloureuses et injustes, et donc un sentiment de culpabilité devant la lâcheté, sans doute, dont ils avaient fait preuve. Sans doute étaient-ils innocents pour une grande part, mais malgré tout, ils n'ont pas été très, très courageux. Il faut dire qu'il ne devait pas être très, très facile de s'opposer à ces princes, des prêtres, à ces membre du Sanhédrin, très orgueilleux, très fort, très arrogant. Hein. Bon. Et en tout cas, voici donc nos membres du Sanhédrin, justement, qui pensent toujours, bien sûr, au respect de la loi. Au respect de la loi, hein. Ils ont fait, semble-t-il, croient-ils du moins, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, un acte sans doute de grande vertu, en faisant crucifier Jésus, mais... Il va falloir, la dépouille du Christ ne peut pas rester en croix. Le lendemain sera un jour de fête, un jour de sabbat, et donc on ne peut pas laisser la dépouille en croix, donc il faut la faire descendre. Et donc, ils se rendent auprès du procurateur, lui demandent justement bien de détacher les corps de la croix, et donc de pratiquer sur les crucifiés cette coutume, cette habitude très, très barbare elle aussi. Mais il y a beaucoup de choses barbares chez les peuples anciens, quoiqu'ils n'étaient pas forcément plus barbares que nous, qui commettons bien d'autres crimes, hélas. Donc, pratiquer ce qu'on appelait la crurifractio, c'est-à-dire la rupture des jambes. Vous brisez les jambes, oui. C'était pour, bien, finalement, achever pratiquement. Et ceux qui étaient là, ceux qui étaient en croix, pour être sûrs qu'ils étaient bien morts, eh bien on leur brisait les jambes, oui, pour qu'au terme de toute leur souffrance, eh bien cela hâte, par la perte de sang, la douleur, etc., hâte la mort, si elle n'était pas encore intervenue. Et donc les soldats vinrent et rompirent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Et quand ils arrivèrent à Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec sa lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et donc Dieu a épargné à son fils eh bien, cette ultime souffrance post-mortem, si l'on peut dire. Ses jambes à lui ne seront pas brisées. Et là encore une fois, et l'évangéliste le rapporte, c'est Saint Jean toujours, hein. Ceci afin que furent accomplies les Écritures. Oui. Vous ne briserez aucun de mes os. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils contempleront celui qu'ils ont transpercé. Donc ces os n'ont pas été brisés et ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Vous avez cela, c'est dans le livre de l'Exode et le livre des Nombres. Hein, c'est... Et également dans le prophète Zacharie, hein, ces prophéties, donc réalisées jusqu'au bout, même au-delà de la mort du Christ. Les os ne sont pas brisés et son côté est transpercé et il en sort du sang et de l'eau, un symbole des sacrements, de toute la vie sacramentelle qui découle dans l'Église et dans nos âmes. Et pendant ce temps-là, eh bien, il y en a d'autres aussi qui pensent un peu à notre Seigneur, où il n'est pas complètement abandonné. Il y en a d'autres, Joseph d'Arimathie, disciple de Jésus, mais secrètement, par crainte des Juifs, mais oui, membre du Sanhédrin, comme le bon Nicodème qui était allé voir notre Seigneur au début de son ministère, mais de nuit, toujours par crainte un petit peu. Et donc c'est Joseph d'Arimathie et Nicodème qui viennent ici. Joseph, lui, avait acheté un linceul, alors que Nicodème, lui, il porte un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 100 livres. Et donc ils viennent là, au calvaire, et ils prennent le corps de Jésus. Ils avaient bien sûr demandé la permission à Pilate, car les autorités, relativement volontiers, fréquemment, lorsque les condamnés à mort avaient de la famille, abandonnaient les corps des défunts aux membres de leur famille pour qu'ils leur donnent les soins nécessaires après leur mort. Sinon, bien, si les corps n'étaient pas demandés, ils étaient jetés à la fosse commune. Bon, et bien là, bien sûr, cet outrage est épargné par ces deux amis, ces deux disciples secrets de Jésus-Christ, Joseph et Nicodème, qui viennent, qui prennent donc le corps de Jésus, ils le détachent de la croix, ils le descendent de la croix, ils l'enveloppent de bandes avec les aromates, selon la manière d'ensevelir en usage chez les Juifs. Vous voyez donc, le corps est embaumé, enduit donc avec toute une sorte de baume, d'aromates, etc. Et ensuite, eh bien, enveloppé dans ce linceul que nous avons encore, bien sûr, quoi qu'en disent certains, que nous possédons encore, c'est peut-être une des plus précieuses reliques que notre Seigneur nous a laissées de lui-même, hein, ce linceul, ce saint-suaire, hein, dans lequel donc il est enveloppé. Et ensuite, eh bien, on le met au tombeau, ce tombeau tout proche du calvaire, tout proche du Golgotha, hein, dans un jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. Ce sépulcre creusé dans le roc et que Joseph, sans doute, avait acquis, avait fait creuser pour lui-même et qu'il va donner pour le repos du corps de notre Seigneur. Et comment se présenter ce sépulcre? Semble-t-il deux chambres, une première pièce, une sorte d'atrium, d'antichambre ou chambre d'attente un petit peu. Et puis ensuite, la chambre funéraire elle-même, ou avec une niche, une sorte de... là, dans le mur, une sorte de niche, dans laquelle, eh bien, on allongeait le corps enveloppé dans le linceul. Oui. Et le tout était fermé par une pierre, une grosse pierre circulaire, une pierre lourde, bien sûr, un petit peu comme une meule de moulin, oui, qui donc fermait l'issue. Et quand on voulait rentrer, mais il fallait rouler cette pierre, mais il fallait un certain effort, car elle était très, très pesante. Oui. Donc, après avoir déposé le corps de notre Seigneur, il roule une grosse pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Et pendant ce temps-là, vous voyez, on retrouve toujours ces femmes, ces saintes femmes, qui, elles, bien, ne peuvent pas se résoudre à abandonner notre Seigneur. Bon, elles ne vont pas rester tout le temps, parce que le sabbat va venir, donc il va falloir qu'elles se retirent, mais elles ne peuvent pas se résoudre à... Bon, sans doute, il est mort, mais on a l'impression, ouais, qu'elles sont là... Elles ne peuvent pas s'en aller, elles ont du mal à croire à sa mort. Elles l'aiment tellement qu'elles ne peuvent pas imaginer qu'il ne soit pas encore vivant. Et elles ont raison. Et elles ont raison, car il est toujours vivant. Il est mort, bien sûr, il a rendu son âme humaine. Il n'a plus de vie humaine, mais il est toujours Dieu. Et dans ce corps inanimé, ce corps sans vie humaine, il y a toujours la vie divine. Il y a toujours la divinité. Et combien on comprend ces saintes femmes, hein, Marie-Madeleine et l'autre Marie, mère de Joseph, qui regardaient là, assises en face du sépulcre. Voilà. Et ensuite, eh bien, ma foi, elles s'en retournent à Jérusalem pour préparer des aromates et des parfums. Et pendant le jour du sabbat, elles se tinrent en repos selon la loi. Voilà, elles sont rentrées chez elles pour préparer ces aromates, pour revenir après le sabbat, pour peut-être compléter, achever encore les rites funéraires, oui, lui donner encore quelques soins, des honneurs supplémentaires. Oui. Et pendant ce temps-là, c'est terrible cet acharnement, hein, jusqu'au-delà de la mort. Oui. Les sanhédrites, eh bien, sont rentrés chez eux, sans doute célèbrent-ils à ce moment-là le repas pascal avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, bien sûr, ils ont gagné, semble-t-il. Et puis, tout d'un coup, voici une sorte d'inquiétude qui les prend, une sorte de petite fêlure un petit peu dans leur triomphe, là, car ils se souviennent que malgré tout, attention, quand il était encore vivant, il avait prédit que 3 jours après sa mort, il ressusciterait. Aïe, 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 attention. Il a déjà fait tellement de choses étonnantes, vous voyez, que, ben, on ne sait jamais. Méfions-nous. Alors, que font-ils? Eh bien, ils vont voir Pilate, ils retournent voir Pilate, le pauvre qui devait commencer à en avoir assez de cette histoire. Bon, enfin, bon. Et ils viennent voir Pilate et lui donnent un conseil. Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur, lorsqu'il vivait encore, a dit « Après 3 jours, je ressusciterai. Commande donc que son tombeau soit assuré jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent dérober le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité des morts, car ainsi la dernière imposture serait pire que la première. » Oui. Donc cette crainte, et bon, sans doute parmi les membres des Sanhédrins, certains ne croyaient pas à la résurrection des morts. Hein. C'était le cas des Sadducéens, par exemple, vous voyez. Mais d'autres, quand même, bon, y croyaient, ils devaient avoir cette inquiétude, alors on trouve une sorte de prétexte, vous voyez, bon, de peur que les disciples ne viennent dérober son corps, et ensuite viennent faire croire, ou cherchent à faire croire qu'il était ressuscité des morts. Alors, eh bien, voilà, hein, faites garder le sépulcre. Et Pilate, eh bien, cède à leur réclamation, en leur laissant simplement le soin de le faire eux-mêmes. Vous avez un corps de garde, allez, prenez vos assurances comme vous l'entendez, faites couler, à la limite, hein, ça... Moi, ça ne m'intéresse plus. Bon, il les laisse faire. Pour lui, ça, tout cela ne l'intéresse plus. Et que font, oui, jusqu'où ils vont aller, tellement ils ont peur. Il est mort, ils ont encore peur de lui, pourtant. Ils s'en allèrent donc, et pour s'assurer du sépulcre, ils en scellèrent la pierre et y mirent des gardes. Oui. Et non seulement ils vont garder le Saint-Sépulcre, le sépulcre, donc le tombeau, mais en plus ils lui mettent les sceaux. Oui, des cachets de cire ou de je ne sais trop comment ça se faisait à l'époque. Hein. Donc, ils vont sceller cette pierre qui est fermée, qui ferme le tombeau. Ils scellent la pierre et ils y mettent des gardes. Oui. Et ces gardes qui n'empêcheront rien, car lorsque l'heure sera venue de la résurrection, eh bien, l'âme de notre Seigneur reprendra son corps, lui rendra sa vie et il sortira du tombeau comme il le voudra. Ouais, ça ne sera pas pour lui... Une grosse difficulté, vous connaissez peut-être la sorte de petit trait d'humour que fera saint Augustin, parce que après la résurrection, les juifs, les membres du Sanhédrin ne sont pas contents du tout et s'en prennent un petit peu aux gardes qu'ils avaient postés là et disent bon, voilà. Eh bien, quel est le conseil qu'ils vont donner à ces gardes? Eh bien, dites que ses disciples sont venus prendre son corps pendant que vous dormiez. Vous voyez un peu l'inconséquence et l'illogisme de la chose, car s'ils dormaient, ils n'ont rien vu. Alors comment peuvent-ils savoir que les disciples sont venus? Et s'ils dormaient d'abord, ils sont punissables. C'est pas bien de dormir quand on est de garde. Bon, tous ceux qui ont été militaires le savent. Hein. Et puis ensuite, si vraiment ils dormaient, ils n'ont rien vu. Ouais. Bon. Ou bien alors ils ont vu, ils n'ont rien fait. Enfin, de toute façon, ils n'en sortent pas. Hein. Ils sont coupables. Voilà un petit peu ces réflexions. Bon, tout cela est bien bref, bien sûr, bien sommaire, hein, chacun d'entre nous de prolonger hein, ces considérations. Mais j'aimerais, pour terminer, sans doute, c'est peut-être un petit peu long, mais enfin, nous avons bien encore 5 minutes, une réflexion, une considération plutôt de la bienheureuse Angèle de Foligno qui a vu des choses magnifiques. Hein, et elle raconte un peu ses visions, hein, ce qu'elle a vu. Un jour, j'étais à la messe, etc., et je vis bien de choses, oui. M'apparut l'image du Dieu crucifié comme un instant après la descente de croix, le sang était frais et rouge, etc. Le secret de la passion, le secret des tortures de Jésus, le secret de la férocité des bourreaux m'était montré plus intimement dans la douleur des nerfs que dans l'ouverture des plaies, dans le dedans que dans le dehors. Alors je sentis le supplice de la compassion. Voilà ce qui est très beau, la compassion. Et il nous faudrait avoir vraiment des âmes de compassion. Ainsi, absorbé et transformé en la douleur du crucifié, j'entendis sa voix bénir les dévoués qui imitaient sa passion et qui avaient pitié de lui. Vous voyez, ça doit être nous, ça. Vous voyez, ceux qui imitent sa passion et qui ont pitié de lui, des âmes de compassion. Nous devons être des âmes de compassion. Un chrétien est une âme de compassion. Et voici ce qu'elle a entendu, donc, tomber des lèvres de Jésus-Christ. « Soyez bénis, disait-il, soyez bénis par la main du Père, vous qui avez partagé et pleuré ma passion, vous qui avez lavé vos robes dans mon sang. Soyez bénis, vous qui, rachetés de l'enfer par les immenses douleurs de ma croix, avez eu pitié de moi. Soyez bénis, vous qui avez été trouvés dignes de compatir à ma torture, à mon ignominie, à ma pauvreté. Soyez bénis, ô fidèle mémoire. Vous qui gardez au fond de vous le souvenir de ma passion, unique refuge des pécheurs, ma passion, vie des morts, ma passion, miracle de tous les siècles, vous ouvrira les portes du royaume éternel que j'ai conquis pour vous par elle. Dans les siècles des siècles, vous qui avez eu pitié, vous partagerez la gloire. Soyez bénis par le Père, soyez bénis par l'Esprit Saint, bénis en esprit et en vérité, par la bénédiction que je donnerai au dernier jour, car je suis venu chez moi, et au lieu de me repousser comme un persécuteur, vous avez offert au Dieu désolé l'hospitalité sacrée de votre amour. J'étais nu sur la croix, j'avais faim, j'avais soif, je souffrais, je mourais, j'étais pendu par leurs clous, et vous avez eu pitié. Soyez bénis, ouvriers de miséricorde. À l'heure terrible, à l'heure épouvantable, je vous dirai, venez, venez, les bien-aimés de mon Père, car j'avais faim sur la terre et vous m'avez offert le pain de la pitié. Il ajouta des choses étonnantes, mais ce qui est absolument impossible, c'est d'exprimer l'amour qui brillait sur ceux qui ont pitié. Ô bienheureux, ô béni, suspendu à la croix, j'ai crié, pleuré et prié pour mes bourreaux. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je dirai pour vous? Pour vous qui avez eu pitié, pour vous qui m'avez tenu compagnie, pour vous mes dévoués, qu'est-ce que je dirai pour vous quand j'apparaîtrai, non pas sur la croix, mais dans la gloire, pour juger le monde? Ainsi soit-il.